Bonjour, Radio PFM était à l'EHPAD Soleil d'automne à Saint-Lambangy-l'EHPAD, qui signifie établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Radio PFM a réalisé un atelier radio de collecte de mémoire. Aujourd'hui, les résidents nous parlent de Tino Rossi, Charles Trenet et de l'importance de l'accordéon après la guerre. Et nous terminerons avec Carole Villiers, qui nous parlera de son métier d'animatrice.
Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras.
Et c'est beau comme chanson pour nous, hein, attention. Hein. Il a été toute sa vie un phénomène. Hein. Tout le monde aimait Tino Rossi, tout le monde voulait Tino Rossi, tout le monde chantait Tino Rossi à la Noël. Ah, non, non. Ah c'était beau.
C'était un très très grand chanteur. Hein. Il chantait aussi dans des opérettes méditerranéennes, enfin où il était en vedette. Alors pour moi qui ai connu Tino Rossi, à l'époque j'avais peut-être 15 ans, il arrivait seulement. Et la critique qui était venue sur Tino Rossi, c'est qu'il tenait une guitare. Et cette guitare, il ne savait pas en jouer. Donc c'était une façon à se présenter sur scène. Mais c'était un très grand chanteur et peut-être un grand acteur aussi, puisqu'il a participé dans des films formidables.
Parce que nous, les jeunes, on se moquait de Tino Rossi. Pour nous, c'était un vieux, à l'époque. Hein.
Oui.
Alors on l'avait surnommé Tino Rossbif. On riait. Mais Charles Trenet, on l'aimait mieux parce qu'il était plus jeune.
Alors, il n'y avait pas une dualité entre les parents et les enfants qui commençaient à écouter Charles Trenet. C'est une autre génération, Charles Trenet, non?
Oui, c'était le chanteur qui bougeait sur scène autrefois.
Pour nous, c'était plus Charles Trenet que Tino Rossi. Hein.
Ah oui, oh, moi, Tino Rossi, c'est ma mère. Donc, c'est quand même pas hier. Ma mère, et toutes les femmes comme ma mère, c'était une idole, Tino Rossi.
Oui, tout à fait.
Il y avait un petit conflit génération entre les parents qui écoutaient Tino Rossi et puis vous qui écoutiez Charles Trenet.
C'est une autre génération.
Alors pourquoi les parents aimaient moins Charles Trenet?
Je sais pas. Oui, il a quand même révolutionné la chanson, c'était autre chose. Tino Rossi, il bougeait pas du tout. C'est où on a commencé à bouger en chantant. C'était un poète, Trenet.
Le style de Charles Trenet, ouais. c'était déjà une révolution dans le type de chanson. Je chante sur le chemin.
Je chante, je vais le faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les elfes, divinités de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. La lune se faufile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui. Personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Les gendarmes qui passaient sur le chemin, gendarmes, je tends les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Au poste, notre moustache m'ennuie. Au poste, ah mon ami, oui, oui, oui. C'est vous le chanteur, le vagabond. On va vous enfermer, oui, votre compte est bon. Non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie. Ficelle, sois donc béni. Car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit et depuis, je chante. Je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux. Un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Non, 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 je suis heureux. Ça va, j'ai plus faim. Et je
C'était, si vous voulez, une génération de nouveaux chanteurs qui arrivaient, quoi, et qui allaient forcément évoluer. Comme je le disais tout à l'heure, c'était un poète, hein, Charles Trenet. Douce France, cher pays de mon enfance.
Voilà, ouais, ouais. On écoutait les chansons, mais on n'avait pas de musique. C'était des copains, des copines qui chantaient.
Puisque sur le marché, à cette époque-là, on ne trouvait pas de disques. Il y avait des textes qui étaient vendus sur le marché.
Oui.
Donc on en revient sur les foires et marchés. Il y avait des stands. Anna Cordonnier, oui. Une chanteuse qui lançait la chanson de Charles Trenet, par exemple.
Ils vendaient les chansons.
L'orchestration.
Alors on les écoutait, puis après on essayait de les ressentir chez soi.
Alors la chance qu'on avait chez moi, c'est que on était musiciens. Mon père saxophoniste, moi saxophoniste. Alors dès qu'il y avait une publication sur une foire et marché, on achetait la partition, forcément, après on jouait chez nous. Voilà. Notes,
hein. Et alors, c'est à partir de quel moment que le disque est apparu où on a commencé à acheter
C'est-à-dire que ça partait du phonographe d'antan, avec le grand cornet.
Oui,
donc on mettait les disques avec un... À l'époque, c'était un saphir.
Les 78 tours.
On mettait, et puis on écoutait... C'est quand ça paraissait, forcément.
Quand est arrivé chez vous le premier tourne-disque?
Moi, je me rappelle que c'était dans les années 48-50.
Oui, bien après la fin de la guerre.
Il y avait les tourne-disques.
Et alors, c'est à quelle occasion qu'on achetait le disque? Parce que comme c'était, ça coûtait quand même de l'argent.
Oui, quelquefois, c'était pour des anniversaires, des choses comme ça. Ouais. On avait un disque, on avait...
Ça durait longtemps.
Ouais, oui.
Très longtemps. Parce que personne n'avait les moyens d'acheter un disque.
On allait chez qui qu'en avait un.
Alors la musique, on l'entendait sur le marché. On entendait aussi les chansons peut-être à la radio.
Non, parce que la radio, elle est arrivée.
À la radio, il n'y a pas grand-chose.
Non. C'était des informations. Pour nous, les jeunes, c'était pas ça.
Et puis après, est apparu les accordéonistes, forcément, qui ont pris le relais à la radio, quoi.
Les accordéonistes avaient une grande place à la radio?
Ah ils arrivaient, oui, c'est sûr.
Il y avait des écoles d'accordéonistes.
Yvette Horner qui faisait le Tour de France.
La championne.
Ah oui, bien sûr. Il y avait des anciens de l'accordéon.
Oh bah ouais. Hein. Maintenant elle vient avec une robe rose et tout ça.
Ah
là,
oui,
tu sais,
bien sûr. Et elle faisait le Tour de France
sur
un véhicule et puis elle jouait en passant dans les villes ou traversait le Tour de France.
Yvette Horner, elle était dessus puis elle jouait.
Et puis le soir, certainement, il y avait un gala avec Yvette Horner.
Il y avait un bal populaire.
Il y avait un bal populaire à l'issue de l'étape.
Voilà.
Ça attirait du monde parce que.
Si vous voulez, à l'époque, tout était pour la musique. Les gens avaient été privés pendant la guerre de bals de musique, de musiciens, d'accordéonistes. Alors là, tout ça, ça se développait au fur et à mesure.
L'accordéon, c'était l'équivalent d'aujourd'hui de la guitare. C'est un instrument.
Oui,
absolument.
Largement.
Ah oui.
Largement.
Dans un orchestre, il y avait toujours un accordéon. C'est sûr. Hein. Bon, après les grands orchestres, c'était le piano, mais à l'époque, c'était beaucoup l'accordéon. Dans chaque orchestre, il y avait un accordéoniste.
Il Yvette Horner dans le cadre de l'atelier radio de collecte de mémoire à l'EHPAD Soleil d'Automne à Saint-Laurent-Blangy où travaille Carole Villiers qui nous présente son métier d'animatrice. Alors Carole Villiers, vous êtes animatrice dans cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire une formation pour devenir animatrice ?
Qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir animatrice ? J'ai fait mes études dans le paramédical et je crois que c'est un événement familial qui m'a fait penser à en faire ma profession. Parce que j'ai passé beaucoup de temps auprès de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et pour moi, vieillir, ce n'est pas une maladie, c'est la vie qui file. Vieillir, oui, on ne peut plus habiter seul chez soi, on arrive en établissement médicalisé, en maison de retraite, mais la vie ne s'arrête pas. On vieillit, on peut encore faire des choses, adapter, accompagner, mais on peut encore vivre et avoir un rôle social et avoir un épanouissement personnel.
Quelle place vous prenez dans la vie des résidents au quotidien ?
Je suis là du lundi au vendredi, j'imagine, je conçois, je réalise, j'évalue les projets d'animation, mais dans un projet individuel et personnalisé de la personne. C'est-à-dire qu'on est tous différents, on a un parcours de vie différent, on doit le prendre en compte, nous professionnels, et on doit créer une nouvelle vie en prenant en compte du projet de vie individuel de la personne.
Alors, je vais vous poser la question à vous, résident. Quelle est la place de l'animatrice culturelle comme Carole dans votre vie de tous les jours à l'EHPAD ?
Oui, pour moi, c'est important parce que ça donne beaucoup de vie.
Moi, je trouve qu'elle a une place et c'est vraiment la cheville de la maison. Moi, sans elle, j'imagine pas venir ici sans sa présence. Je l'aime beaucoup. Enfin, l'aimer, c'est peut-être un grand mot. Je l'admire parce que j'aurais pas su le faire. Pourtant, j'étais infirmière, mais je n'aurais pas su, je pense, la qualité d'accueil qu'on a avec elle.
Elle nous apporte la vie, la flamme de vivre, et elle est très organisée. Et nous apprécions beaucoup.
Ce qu'elle recherche chez les résidents, c'est un thème qu'elle puisse, dans l'ensemble, expliquer la vie de le résident ou ce qu'il a proposé.
Donc, quelles sont les différentes animations que vous mettez en place à l'EHPAD ? Et comment ça s'organise ?
Alors, il y a une commission animation qui a lieu une fois par mois, dans laquelle on présente le programme du mois. Ensuite, les résidents ont de manière hebdomadaire un programme qui est distribué en chambre le lundi matin. Les différentes animations et projets d'animation, alors il y a les activités comme le loto, des activités manuelles, des ateliers mémoire, de la gymnastique, mais également des rencontres avec des écoles, des jeunes. On travaille avec et on reçoit ici des jeunes de l'école Langevin, de l'école Langlais, de l'école de Feuchy, du collège Verlaine, de l'école de la Seconde Chance. Pour nous, en tant que professionnels, mais aussi, je pense, les résidents, c'est important l'intergénérationnel. Et puis, on fait également beaucoup de sorties pour garder un lien social avec l'extérieur. Et je pense que c'est très, très important, comme au cinéma, au théâtre, au basket. Nous sommes allés à Arras au 100e anniversaire de la bataille d'Arras. Et également, nous allons au cirque, nous allons à la pêche. Nous avons participé au Téléthon la semaine dernière à Reux. Voilà les différentes sorties auxquelles nous pouvons participer. Et dans notre établissement, on a quelque chose qui est important et à mettre en valeur. C'est la salle de relaxation qui s'appelle la salle Snozelen, qui est donc une salle de relaxation et de stimulation. Stimulation cognitive, stimulation visuelle, stimulation sensorielle. Et on travaille beaucoup le bien-être. Donc les résidents ont la possibilité d'utiliser et de venir dans cette salle de détente et de relaxation tous les mercredis matins. Et c'est un petit peu l'image de notre prise en charge de la personne, c'est de travailler vraiment sur le bien-être et le confort pour que la personne se sente bien, se sente exister, se sente épanouie individuellement pour pouvoir être bien dans un groupe. Parce que c'est une nouvelle vie d'arriver en maison de retraite, on n'est plus seul chez soi, on est quand même 98 dans la maison. Donc ça fait du monde et c'est une nouvelle adaptation, j'ai envie de dire, et c'est une nouvelle vie.
Alors, vous avez connu l'EHPAD avant, quand il n'y avait que 68 places, et puis vous avez connu la réhabilitation de l'EHPAD et son agrandissement. Qu'est-ce que ça a changé ?
C'est une plus grande maison. C'est encore plus difficile de prendre... Je n'ai pas dit que c'était impossible, mais c'est plus difficile de prendre son temps pour que la personne... On essaye, mais voilà. Alors, il y a 98 personnes dans l'établissement. Moi, je ne m'occupe pas des 98 personnes. Il y a 6 personnes qui sont là en accueil de jour, 19 personnes qui sont en unité de vie Alzheimer, et le reste au rez-de-chaussée, premier étage dans l'établissement que je m'occupe.
Alors, vous parliez justement de l'accueil de jour. On va peut-être donner la parole aux résidents qui viennent à l'accueil de jour. De quelle manière vous êtes rentré en contact avec l'accueil de jour ?
Ce sont mes enfants qui sont occupés de moi et je viens une fois par semaine.
Alors comment ça se passe cette rencontre ? Est-ce que vous aviez une appréhension au départ de venir ?
Non, mais ça se passe très très bien et j'aime bien venir. Ah oui, on passe une très bonne journée, j'aime beaucoup.
Alors l'animatrice que vous êtes au sein de l'EHPAD, de quelle manière vous travaillez avec le personnel ?
C'est essentiel de travailler avec l'ensemble du personnel pluridisciplinaire, donc aussi bien le personnel administratif, que soignant, que de restauration, que la logistique. C'est très important de travailler tous ensemble dans le même but, le bien-être et le confort de la personne. Alors, on a un rôle d'accompagnement, un rôle pour mettre en place de l'animation, bien entendu, et on travaille avec l'entourage des résidents.
Vous ne travaillez pas toujours seul sur les animations, vous travaillez aussi avec des intervenants extérieurs ?
Tout à fait. C'est important pour nous de sortir de l'établissement, mais de faire entrer aussi... des intervenants extérieurs. On travaille du mois de mai jusqu'au mois de septembre avec l'association arageoise Les Randonneurs du Pays d'Artois. On a travaillé cette année avec une association qui s'appelle L'Envol, qui est une association de transformation sociale par le chant, le théâtre, la danse et l'écriture. On a travaillé avec la radio PFM 99.9, qu'on remercie. Et c'était un projet fort intéressant parce que c'est aussi quelque chose qui va rester. C'est des émissions qui sont enregistrées et vous, les résidents, mais aussi les familles qui nous écoutaient et pourront encore nous écouter et écouter leurs parents via Internet. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et en fait, donc après, les personnes, les résidents pourront s'entendre. Et c'est intéressant aussi, je trouve qu'elles ont une voix magnifique. Et ça change de ne pas voir la personne et de l'écouter. Et du coup, ça m'a fait apprendre à écouter aussi leur voix, leur timbre de voix, leur manière dont elles s'exprimaient verbalement. Parce qu'on les voit aussi avec leur visage, les gestes, mais la radio, c'était une belle aventure. Et c'est peut-être pas fini pour l'année 2018. On fait intervenir aussi une podo-réflexologue, l'association Lire et faire lire d'Arras. Et on travaille bien sûr avec les bénévoles. On a 4-5 bénévoles qui viennent régulièrement pour nous aider. Et voilà. Et ce qui est important aussi dans notre établissement, c'est de travailler en lien avec ma collègue Isabelle qui travaille en accueil de jour, avec Christine, ma collègue qui travaille, qui est animatrice à l'UVA, et de travailler à trois pour mener une dynamique en lien avec l'extérieur. Je pense que c'est important.
Nous terminons avec Carole Vier, animatrice à l'EHPAD Soleil d'automne à Saint-Lamblangy. Cette émission a été réalisée dans le cadre d'un atelier radio de collecte de mémoire.